Bon, d'abord, je vais aussi dire le plaisir que j'ai à être ici. Hein. C'est la première fois que je viens à Cerisy. Donc, je découvre et un lieu quand même magnifique. Et ça m'a l'occasion de me rappeler exactement tout ce qui s'est fait ici, qui, je dois dire, est très impressionnant. Voilà. Et je remercie les organisateurs d'avoir organisé ça et de m'avoir invité au passage. Voilà. Bon. Alors, dire un mot. Bon, ce que je vais présenter, c'est vraiment des prolégomènes à une recherche qu'on commence avec Benjamin Aurore et d'autres hein, sur entreprendre en commun. Donc, tout à fait naturellement, ça m'a amené à me centrer sur la question des rapports entre commun et entreprise, surtout que j'ai beaucoup travaillé sur l'entreprise, hein, d'une part, et avec en même temps, progressivement, à voir que ça, c'est inséparable de la question du salariat, qui, pour toute une série de raisons, enfin, je vais le dire, devient une question absolument centrale dans les transformations actuelles, hein, des communs ou pas communs, hein. L'évolution et la transformation du salariat est une question centrale. Voilà. Bon. Alors, mon point de départ, c'est un peu le suivant. Bon. Le commun, donc disons, un commun, c'est une forme d'action collective au même titre que l'entreprise. Hein. Il y a des formes majeures d'action collective. Donc, ça repose sur l'activité des membres d'un collectif, hein, d'une communauté. Bon, voilà. Et c'est ce que disait tout à l'heure Benjamin, bah, faut aller voir de l'intérieur, dans la black box, comment ça se passe. C'est-à-dire que de la même manière, hein, c'est-à-dire que les conditions effectives dans lesquelles s'organise cette mise au travail, hein, parce que c'est une mise au travail, le travail, c'est au même titre que la gouvernance, et de mon point de vue, c'est presque aussi important que la gouvernance, pour comprendre ce que va être un commun, comment il va pouvoir évoluer, etc. C'est exactement comme sur l'entreprise, hein, de mon point de vue. Une des dérives qui, à mon avis, a été très mauvaise dans la théorie de l'entreprise, c'est qu'on a tout centré sur la gouvernance et tout ce qui va après sur vraiment les formes d'organisation, finalement, sont passées. La dimension productive, forme d'organisation, passée au second plan. Or, si on regarde ce qui est les évolutions de ces 30 dernières années, bien sûr, il y a l'évolution de la gouvernance avec le montée managériale, mais l'évolution des formes d'entreprise est quelque chose d'absolument. On peut dire c'est une révolution. Hein, je crois qu'on peut aller jusqu'à ce point-là. Hein. Il y a eu une première révolution managériale hein, à partir du début du XXe siècle. Et depuis les années 80, il y a une espèce de révolution actionnariale, hein, financière, hein, qui se traduit par une transformation. Mais alors, on ne saurait vraiment pas la sous-estimer de ce que sont les entreprises qui sont devenues ces espèces de systèmes. Hein, une multinationale, ça a entre 200 et 500 filiales hein, réparties un peu partout dans le monde, dans lesquelles les directions jouent. Hein, nous, on a vu sur le cas de Fralib, comment Unilever jouait sur ses filiales hein, pour éventuellement illuminer une entreprise, une de ses unités. C'est ça aujourd'hui, hein, la réalité. Vraiment la réalité. Hein. Donc, faut aller voir. Hein, voilà. Et il n'y a pas de rapport mécanique. Il hein. Y a des rapports, bien évidemment, entre formes de gouvernance, formes d'organisation. Les rapports ne sont pas mécaniques. Hein. Je donnerai un autre exemple. Prenez le cas de Volkswagen. Bon, sur le papier, c'est une entreprise qui a une gouvernance tout à fait originale. Hein. On est dans le système allemand et en plus de ça, il y a le pouvoir considérable de l'État de, je crois, Baden-Württemberg, peu importe. Baden-Württemberg. Bon. Quand on va regarder et la forme d'organisation et les pratiques de Volkswagen, est-ce que ça a un impact fort? On peut en douter, hein, surtout. Enfin, on a vu en tout cas du point de vue de l'intérêt général, c'est pas totalement concluant, hein, disons. Bon, voilà. Voilà. Alors, d'où l'importance de cette question. Bon, alors pourquoi est-ce qu'elle est importante? Bon, pour les raisons que je viens de donner, hein, c'est-à-dire que pour les communs comme pour l'entreprise, on ne peut pas se contenter de la gouvernance, c'est effectivement de les conditions précises, hein, vraiment, il faut rentrer dans le détail sur comment ça fonctionne. Hein. Bien. La deuxième, c'est la question du développement des communs et la perspective donc d'une république des communs. Parce que je pense que les conditions précises dans lesquelles fonctionne un commun, et en particulier se fait le travail, va mettre en jeu, si je vais montrer ça, très fortement les liens entre le commun et le reste. Liens entre le commun et le marché, liens entre le commun et les entreprises. Et des problèmes, j'anticipe un peu, de dépendance du commun vis-à-vis de l'environnement. Voilà. Et donc, toute une question, c'est ce que disait hier après, c'est comment et dans quelles conditions on va pouvoir effectivement arriver hein, à une extension du champ des communs, et si même pas voire à une hégémonie, c'est un bien grand mot, mais vraiment en faire une forme majeure, majeure. Or, ça, c'est pas, disons, arriver à faire des communs une forme majeure, c'est pas la même chose, je pense, ça implique des ruptures assez fortes. entre, avec avoir, disons, des communs, des îlots de communs, hein, voilà, hein, qui sont en fait extrêmement branchés sur le reste du système et extrêmement dépendantes du reste du système. Voilà. Hein. Et là, dans cette perspective-là, l'organisation et le travail devient absolument central. Voilà. Alors l'autre question, c'est qu'il y a des liens aujourd'hui sur ce qu'on dit sur le commun et ce qu'est l'évolution du travail, des formes de travail dans le capitalisme, qui sont liées, c'est assez complexe, parce que c'est directement lié à ce dont je viens de parler, sur l'évolution des formes des entreprises, hein, l'extériorisation massive du travail, ces espèces d'organisation internationale du travail complètement délirante. Là, tu as un exemple là, de, je sais pas quoi, c'est le poisson à Boston. On le pêche à Boston, on l'envoie le faire nettoyer en Chine et on le ramène. Oui, bon, c'est exemple de, hein, c'est ça. Ouais, ouais. Exemple de, bon. Donc on a voilà de rationalité actuelle, voilà. Et donc, ça se traduit, on le sait, évidemment, par la montée toute une question des formes de précarisation du travail. Et les communs là-dedans, manifestement, vont avoir un rôle à jouer. Hein, c'est, enfin bon, voilà. Alors, là, ici, le point est compliqué parce qu'il y a à la fois une évolution qui vient du capitalisme, mais il y a aussi une évolution qui semble venir d'un changement dans les aspirations. Hein. C'est-à-dire qu'il y a cette recherche de l'autonomie individuelle, hein, voilà, hein, qui aussi joue un rôle. Hein. D'où ces aspects, je crois, très ambivalents et assez compliqués, hein, la position qu'on peut avoir vis-à-vis du salariat et de l'évolution du salariat. Hein. Je pense que c'est... Voilà. Alors, je vais donc traiter ça. Bon, comme je vous l'ai dit, je en suis vraiment au début à essayer... ma question, c'est comment aborder toutes les questions qu'il y a autour de ça. Hein, qu'il y a autour de ça. Je vais l'approcher sous deux angles. Je vais prendre un... D'abord, plutôt me centrer sur le commun et les formes de travail, hein, et les questions que ça soulève du point de vue des liens du commun à l'environnement. Puis ensuite, j'attaquerai directement la question des rapports entre commun et entreprise, c'est-à-dire jusqu'à quel point, en gros, on peut concevoir une entreprise, parce que c'est pas évident, hein, concevoir une entreprise ayant les caractères d'un commun. Bon, ça m'amènera en particulier aux coopératives, hein, bien sûr, hein, la question qui me semble est la forme quand même, a priori, qui a le plus, voilà. Ou bien est-ce que le commun implique en fait un dépassement fondamental de l'entreprise comme forme fondamentale, hein, voilà, ce qui amènera au pied, ça me permettra de passer la main après. Bon, alors, premier point, commun, gouvernance et travail, enfin, le commun, la gouvernance et le travail, bon. Il faut que je revienne quand même un point sur l'analyse de la gouvernance des communs. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit. En gros, il y a un collectif, il y a un objectif, pour moi très important, un objectif partagé, hein, pour moi, d'une certaine manière. Une forme spécifique de gouvernance et d'organisation. Et puis, je dis un mot ici qui est très important, je crois, qui revient toujours chez Ostrom, auto-organisation et auto-gouvernance. Bon. Parce que tout ça c'est très bien, mais c'est un peu comme les questions du droit. C'est très bien d'avoir de l'autogouvernance, hein, mais comment on met ça en place, hein. Bon, et alors l'auto-organisation, bien. Mais l'autre point que j'ai toujours retenu moi chez Ostrom et qu'on n'insiste pas, bon, je m'appuie sur cet exemple que d'autres ont cité de Schlager et Ostrom sur la manière dont elle analyse un peu. Comment est structuré un commun, je crois que c'est une pêcherie. Et donc, comment sont définis en termes de faisceau de droits, les droits et les obligations de différentes parties. Pour moi, un point central, c'est que la définition et la répartition de ces droits, ça conduit, elles disent, à la définition de différentes positions. Différentes positions. Alors ça, c'est de mon point de vue d'une extrême importance, parce que ça, c'est bien dire au départ, le commun, la collectivité, n'est pas homogène. N'est pas homogène, il y a une différenciation. Hein, c'est comme ça, dans le cas des pêcheries, ils analysent. Hein, il y a quatre catégories de commoners, hein, avec des droits différents, avec, disons, des droits déclinants. Hein, voilà. Et donc, pour moi, je dis au passage, il y a quand même une question, mais qu'est-ce qui détermine et qui justifie la structuration qui va être prise de ce point de vue-là? Voilà. Alors, c'est lié au travail, dans la mesure où je pense que l'implication, d'une manière, en termes général, des différents commoners va jouer un rôle. Et donc, effectivement, le type de travail qui est, la part de leur travail qui est vraiment dans le commun. Voilà. Là, je crois qu'il y a deux, donc il va y avoir donc deux, qu'on va analyser le travail, la part de travail dans le commun, on va avoir deux dimensions. Hein, d'une part, qui est d'une part, la dimension interne, la dimension externe, je veux dire. Hein, c'est-à-dire exactement quelle est la position en termes de travail, alors du coup, dans la division du travail, je dirais, d'une certaine manière, hein, de différents commoners dans le commun. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pas, etc. Alors on voit qu'il y a, il peut y avoir des marges considérables. Hein. Il peut y avoir des commoners pour qui, pour l'essentiel, ça consiste à participer occasionnellement à un certain nombre de réunions de prise de décision. Il y en a qui vont être amenés à participer à la gestion. Hein. Et puis vous avez des cas où, en fait, toute l'activité du commoners est dans le commun. Si on considère la coopérative comme un commun, c'est en totalité. Donc il y a une diversité de situations extrêmement grande. Ce qui amène à la deuxième élément, c'est, ce que fait l'individu dans le commun et en dehors. Et en dehors, bien évidemment. Dans la plupart des communs, les communeurs, ils ne sont pas simplement dans le commun. Ils ont une vie sociale et une vie professionnelle éventuellement en dehors du commun. Hein. Et donc là aussi, la manière, hein, la place qu'occupe le commun dans la vie sociale de l'individu est absolument essentielle. Donc il va y avoir des commoners qui ont en fait une assez grande autonomie vis-à-vis, hein, qui sont là, qui sont contents d'être là, etc., qui vont, mais qui ont une autonomie, c'est quand même très important. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dépendants du commun pour leur vie. Par contre, on va avoir d'autres cas dans lesquels les commoners sont dans un état de dépendance forte avec le commun. Voilà. Alors ça va donner, je pense, des configurations extrêmement différentes. Voilà. Alors, je vais essayer simplement, parce qu'il faut que je fasse attention quand même, je vais simplement, donc on va pouvoir, à partir de ce point-là, des très grandes diversités de situations, c'est évidence. C'est le problème, hein, moi, sur lequel je suis tombé, c'est bon, quand on prend les communs, on a des situations de ce point de vue-là qui sont extrêmement diverses, hein, extrêmement diverses. Voilà. Hein. Alors, je vais faire simplement là, je vais essayer de prendre quatre configurations en prenant des formes classiques, hein, des formes classiques de communs. Bon, alors, premier cas, je vais être rapide, c'est le cas des coopératives de production. Je suis rapide parce que je vais revenir après, hein, dessus en tant que tel, parce que pour moi c'est central, hein, c'est dans les rapports évidemment. Bon, alors là, c'est assez simple, hein. On fait un régime salarial dans un commun inséré dans des relations marchandes. Je dirais voilà, un régime salarial dans un commun inséré dans des relations marchandes. D'accord ? Bon. Encore une fois, en admettant ce qui ne va pas de soi que une coopérative est un commun. Hein. Bon, c'est, voilà. Alors ici, je laisse, je vais revenir, hein, là-dessus parce que il y a toute une série de questions autour de ça. Bon. Le deuxième cas, bah, c'est le cas des pools communs de recherche, de ce qu'analyse essentiellement Ostrom, hein, c'est-à-dire les pools communs de ressources. Enfin, quelle est la situation, hein, si on prend une pêcherie ou une forêt ? Bon, en fait, un commun regroupe pour l'essentiel des travailleurs indépendants, hein, pour lequel quand même la vie dépend effectivement de leur activité en tant que travailleurs indépendants. Hein, et le commun, qu'est-ce qu'il fait ? Il se justifie par le soutien qu'il apporte, hein, aux commoners autour de la question de la gestion de la ressource, sur lequel dont ils dépendent entièrement. Mais ce qui n'empêche que l'essentiel du travail et de l'activité des commoners, c'est leur travail de travailleurs indépendants, hein, c'est d'aller pêcher quand même, hein, bien sûr. Hein, voilà. Hein, voilà. Alors, c'est là où on a vraiment un commun qui combine, il y en a d'autres, des activités tout à fait individuelles, hein, personnelles, et des activités collectives. Hein. Et donc, il va y avoir toute une série de questions dans la manière dont on va articuler tout ça. Et là, il faudrait rentrer dans le détail. Alors, ça m'amène à un cas qui est pour moi, je ne vais pas trop, parce qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi là-dessus, c'est le cas des CAE, hein, évidemment, des coopératives d'activité et d'emploi, qui est pour moi, bon, qui est quelque chose quand même de tout à fait, quand on tombe là-dessus, on trouve ça particulièrement intéressant, parce que c'est la forme vraiment achevée de combinaison. Comment on va arriver à faire du commun un mode de combinaison entre statut salarial et travail indépendant ? Parce que là aussi, hein, on a cette combinaison entre le commun qui va remplir un certain nombre de fonctions, hein, d'une part, et puis quand même l'essentiel qui est que les commoners sont des travailleurs indépendants, ils travaillent comme travailleurs indépendants. Et donc c'est la manière dont tout ça se combine qui est essentielle, je ne m'étends pas parce que je crois qu'on va avoir quelque chose là-dessus. Voilà.
Ce soir.
Bon. Quatrième cas, logiciel libre. Oui, alors un point, dans tous ces cas-là, ce qui est essentiel, c'est la dépendance du commun avec le marché. Bien sûr, parce que tout dépend, voilà. Quatrième cas, le logiciel libre. Alors ça, c'est un cas extrêmement intéressant. Bon, alors, on a les membres d'un commun qui participent activement, alors là, à un projet collectif, qui est l'objet du commun, c'est-à-dire la production, hein, sans être nécessairement rémunérés, en général, ne seront pas rémunérés. Bon. Alors, bon, d'après ce que je me suis laissé dire, hein, c'est par Mangold, il y a différents modèles productifs, hein, dans le logiciel libre, hein, il y en a en gros trois. Soit un cas où c'est finalement une entreprise individuelle, un petit groupe d'individus qui font ça. Hein. Deuxième cas, il y a une fondation qui rémunère, en fait, les programmeurs. Hein. Pardon, quoi. Oui, c'est ça. Et enfin, le cas, évidemment, qui paraît le plus intéressant, qui est le cas du type, en fait, qui est quand même les grands logiciels libres, hein, Linux ou Apache, où, qui sont ceux qui font le travail, c'est des salariés des grandes entreprises informatiques. Hein, voilà. Et alors là, je dirais, on a le cas, mais presque emblématique, dans lequel on a un commun qui est totalement intégré au système capitaliste. Parce qu'il est clair que Linux et Apache, c'est des éléments de la stratégie, hein, se sont développés en tant qu'éléments de la stratégie propre des grandes firmes informatiques. Hein. C'est-à-dire que c'est elles qui ont choisi cette forme-là, c'est intéressant de savoir pourquoi, plutôt que de faire eux-mêmes le logiciel, ou plutôt qu'essayer... Hein, d'avoir un logiciel produit par une firme indépendante qui aurait un pouvoir énorme, je pense qu'il y a une question de ce type-là. Hein. Ouh là là, bon, voilà. Voilà donc les trois cas. Alors là, ouh là là, oui, alors, bon, ça va. Bon, tu me diras, je peux faire que la première partie. Mais, enfin, bon, non, quand même, il faudra que je parle des coopératives. Oui, voilà. Donc, en gros, ça, pour moi, alors, pose les questions d'organisation, mais ce que j'en ai retenu surtout, c'est les formes de dépendance. Hein. On est quand même toujours là dans un système dans lequel... Alors, la dépendance vis-à-vis du marché, ce n'est pas du tout la même chose, de mon point de vue, que la dépendance vis-à-vis de multinationales, disons. Hein, voilà. Hein. La dépendance du marché, ça dépend, j'irai très vite. Hein. À ce moment-là, ça veut dire que si on veut développer ça, c'est la question de ce qu'est le marché et de repenser le marché. Enfin, pour aller très vite, je pense que le développement des communs, hein, passe aussi, non pas penser le marché comme un commun, moi je ne sais pas très bien, mais par repenser le marché. On parle du marché comme ça, comme une abstraction large. Or, en fait, il y a des formes de marché extrêmement différentes, il y a des histoires du marché extrêmement différentes. Le problème actuel, c'est qu'on est dans des marchés totalement dominés, hein, dans la plupart des activités, dominés par les firmes, hein, et par des grandes firmes, et qui construisent le marché à leur manière. Voilà. Alors, deuxième, il faut que j'aille vite, donc, commun et entreprise. Alors, ça, c'est l'autre manière de prendre la question. Comment penser les rapports entre commun et entreprise? En gros, moi, je me dis, mais il y a trois perspectives. La première, je vais être très rapide, il y en a certains qui le disent, c'est étonnant, mais l'entreprise capitaliste, ben, c'est un commun, c'est une forme de commun. Alors, c'est très étonnant, c'est Ostrom, hein, elle le dit. Hein. C'est, ben oui, ben, oui, écoute.
C'est pas le cœur de son message. Hein.
Ben non, mais j'ai trouvé au moins deux fois le dire. Hein. Bon, enfin, peu importe. Hein, bon. Et il y a d'autres qui ont développé ça. Je laisse de côté parce que ça me paraît quand même très acrobatique. Voilà. Reste alors deux voies envisageables. Hein. La voie consiste à dire il faut penser d'autres formes d'entreprises qui auront les caractères du commun. Hein. Voilà. Et la voie qui est de dire non. La nature même de l'entreprise fondée sur la hiérarchie et des rapports de domination... et en quelque sorte, serait de manière antagonique au commun. Donc, il faut aller au-delà de l'entreprise et créer des nouvelles formes sociales. Bon, la forme essentielle ici, bien sûr, c'est le peer-to-peer. Hein, c'est le réseau, c'est cette espèce de production en réseau, en peer-to-peer. Voilà. Il y a d'autres choses. Je vais aller directement sur la coopérative. Bon, moi, je vais essayer de cerner très clairement les problèmes pour moi. En gros, le problème, il est le suivant. C'est une coopérative, ça combine deux dimensions qui sont quand même conflictuelles. C'est un principe démocratique et une organisation hiérarchique. Voilà tout le truc. C'est-à-dire que ça continue à fonctionner sur le modèle de l'entreprise, quelque chose, et ça doit être démocratique. Alors, l'organisation hiérarchique, c'est une mode de division du travail. Alors ça, je vais revenir, il y a une époque où on a réfléchi là-dessus, à quel point la division du travail, c'est quelque chose de fort, hein, du point de vue des implications sociales et en termes de pouvoir. C'est donc un système de pouvoir et c'est la construction d'un appareil managérial. Alors là, je crois qu'il faut revenir quand même à la révolution managériale, la grande révolution de l'entreprise, c'est ces constructions, ces appareils de gestion. C'est ça, c'est quelque chose. Or, ces constructions de ces appareils de gestion, c'est pour ça, hein, qui existent presque indépendamment du Finlande, ça a un poids absolument considérable, hein, absolument considérable. En termes de division sociale, hein, les cadres, les ouvriers, etc. En termes de construction de toute une culture, enfin, je ne vais pas m'étendre, on voit à l'heure actuelle à quel point le poids qu'a, disons, la culture et la logique managériale, et ça je pense que ça va être extrêmement difficile à éviter dans une coopérative, sauf avoir vraiment une réflexion très, très profonde, hein, sur la manière dont on repense la structure. C'est pour ça que la division du travail et la structure organisationnelle, c'est absolument essentiel. Parce que si on copie pour l'essentiel les trucs existants, il va y avoir toute une série de problèmes. Voilà. Et puis ça c'est lié à la question du rapport salarial. Bon. Alors, il y a un point ici, hein. Pour moi, la voie de sortie, si on peut dire, c'est de repenser ce qu'on entend par hiérarchie, hein, et pourquoi il faut de la hiérarchie dans l'entreprise. Voilà. Alors, il y a des choses, hein, là-dessus. Je ne sais pas si j'ai le temps, il me reste combien de temps ?
Non, ça va.
Bon, oui, non, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que, disons, quand on analyse l'appareil de gestion d'entreprise, hein, bon, on peut l'analyser sous deux angles qui sont complémentaires, une espèce d'angle, disons, comme système de coordination, système informationnel, système cognitif. Ça a été fait, hein, dans un certain nombre de travaux à une certaine époque qui sont intéressants, ce qu'on va appeler la théorie des équipes, qui est la question comment trouver la bonne forme d'organisation dans des systèmes complexes. Dans des systèmes complexes, et dans certains cas, on dit dans des systèmes complexes, alors en laissant totalement de côté les conflits d'intérêts, les différences, etc., dans les systèmes complexes, la forme la plus efficace, c'est un système hiérarchique. Pas nécessairement, hein. Il y aura, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y aura des systèmes complexes dans lesquels le système distribué, style pire pour rire, pourra être révélé. Là, ça va dépendre un peu de la structure du système. Hein. C'est des travaux anciens, y compris de Simon. Hein. Il y a des choses de Simon là-dessus. Bon, voilà. Voilà. Alors le problème, c'est qu'en même temps, le système hiérarchique, c'est un système de pouvoir. C'est un système politique, disons. Voilà. Alors c'est la manière dont se combinent les deux qui fait problème. Alors la question, est-ce qu'on peut séparer ? Est-ce qu'on peut séparer ? C'est-à-dire qu'on peut concevoir un système hiérarchique qui n'est pas un système de domination. Hein, voilà, hein, c'est ça. Bon. C'est un vaste programme. Hein, voilà, vaste programme. Voilà. Même chose sur le salariat, parce qu'en même temps, donc, tout ça, c'est le salariat. Dans le salariat, il y a un rapport, là aussi, effectivement, d'autorité. Alors là aussi, il y a une question, je pense. Je pense que toutes les discussions sur le salariat sont quand même très marquées par le fait qu'on ne parle pas du salariat en général, c'est qu'on a en tête le salariat d'abord tel qu'il a été construit dans le Fordisme, parce que c'est ça la référence, hein, etc., qui est alors un système, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas simplement un système d'entreprise, c'est un système social, hein, parce que c'est là où, comme le disait Mazar, il faut parler du micro, il faut passer du micro-institutionnel au macro-institutionnel, il faut penser le salariat comme un système global. Voilà. C'est pour ça que le problème de suppression, de rétrécissement du salariat dans l'entreprise a des effets sociétaux absolument considérables. Voilà. Voilà. Alors, il y a un autre. Oui, je continue. Et bon, alors ça, c'est le premier problème. L'autre problème qui est très lié à celui-là, c'est le problème de la taille. C'est le problème de la taille. Là, je reviens à Ostrom, hein, qui répète incessamment que finalement, pour elle, le commun, ça marche dans des communautés de petite taille, de taille limitée. Hein, elle a toute une argumentation là-dessus, et je pense qu'il y a... D'ailleurs, à mon avis, d'une certaine manière, elle a raison. Elle a raison. C'est parce que c'est le caractère propre des relations qui se font dans des communautés de taille limitée qui vont permettre le commun. Hein, qui vont permettre le commun. Voilà. Alors, quand on passe... on monte en taille, hein, alors là, les choses changent considérablement. Et donc, la question, c'est comment on peut penser des communs de grande taille. Voilà. Bon. Alors, il y a des choses, hein, là-dessus. Ce qu'elle dit, mais je n'ai pas toujours trouvé ça très clair sur l'importance de systèmes polycentriques, est sans doute important. C'est-à-dire, penser des systèmes décentralisés. Hein, faudrait savoir, mais je ne peux pas développer, parce que ce qu'elle dit sur les systèmes polycentriques, ça vient, en fait, de travaux faits sur les systèmes publics, hein, sur les institutions publiques, et sur la décentralisation, c'est-à-dire qu'elle a travaillé sur la décentralisation, et donc elle voit la décentralisation comme un élément essentiel. Bon, mais, où je lis, hein, je donne « multiplayer of nested enterprise », ça c'est ce qu'elle dit quand elle essaye de réfléchir quels sont les communs qui ont marché, hein, quels sont les traits, hein, elle fait une espèce de synthèse quand on analyse... comme elle dit, il y a une très grande diversité de formes possibles de gouvernance, ça c'est son grand truc, il n'y a pas de mode de gouvernance, mais il y a quand même un certain nombre de principes. Et son idée, c'est que quand il y a des communs de grande taille complexes, alors il faut, je ne sais pas comment le traduire, un multiplayer of nested enterprise, hein, une espèce de réseau d'entités indépendantes. Pardon, ouais, bon. Voilà. Alors, dernier point, mais finalement, ça fera la transition avec ce que va dire Michel. L'alternative à ça, c'est de dire non, il faut effectivement aller au-delà de la firme. Et donc, il faut concevoir un commun comme une forme d'action collective, de production éventuellement, mais reposant sur un nouveau mode de production. Une rupture radicale qui supprimerait, qui serait... Bon, alors la production sans hiérarchie, il y a toute une série de questions, qui sera le modèle pair-à-pair. Alors, à partir de là, pair-à-pair, hein, peer-to-peer, pair-à-pair, hein. Modèle pair-à-pair, qui est donc, je renvoie Michel Bowen, Ben Clare, etc., qui est présenté, qui se présente comme une alternative, alors pour le coup absolument radicale, dans l'organisation de la production, hein, qui permettrait précisément véritablement de penser une activité d'entreprise, je dirais, parce que c'est plus une entreprise, mais une activité d'entreprise, comme un commun. Voilà. Voilà. Alors, bon, je vais m'arrêter là. Hein. La question, si tu veux, c'est la question de la coordination. Est-ce que, je reviens à un truc tout à l'heure, est-ce qu'il peut y avoir coordination sans hiérarchie ? Coordination efficace sans hiérarchie. On l'a dit, hein. On l'a dit tout à l'heure, en fait, dans les grands programmes de logiciels libres, il y a une forme de hiérarchie. Voilà. Alors là, ce qu'il faut analyser, c'est pousser plus loin la réflexion sur ce que je disais, sur les caractères de la hiérarchie et sur la manière précise, hein, dont elle fonctionne. Voilà. Hein. Parce qu'on peut sans doute avoir une hiérarchie qui n'est pas la même que ce qu'on a chez Unilever ou même chez Volkswagen. Hein.
Il nous manque juste la projection du film de Fellini, Prova d'orchestre.
C'est ça. C'est donc malgré tout. Hein, bon. Mais comment avoir une hiérarchie basée en même temps sur un choix collectif, hein, sur une organisation collective. Voilà. Et d'autre part, c'est effectivement toujours la question de la taille. C'est au-delà d'expériences bien délimitées qu'implique l'extension de ce modèle. Hein, c'est-à-dire que on ne peut pas s'en tenir, hein, aux formes micro. Si précisément on se pose des questions sur comment avoir une république des communs, c'est comment tout ça va faire système. Hein, tu comprends ? Faire système. C'est-à-dire que c'est comment on peut penser, hein, l'extension de ce modèle-là et tout le système social sur lequel qui va être cohérent, qui va être en partie en cohérence avec ça. Voilà. Et c'est là, je pense qu'il y a une dimension essentielle qui est de repenser le marché, c'est-à-dire de dire, bon, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que on est marqué par le fait, par le type de marché dans lequel on travaille. Bon, hein, voilà. Hein. Or, le marché, là encore, bon, on avait travaillé à une époque là-dessus, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a des formes de marché extrêmement différentes. D'une part, il y a une transformation historique des marchés qui est quelque chose de considérable, et on est aujourd'hui dans le marché capitaliste,
hein,
dominé par les grandes firmes. Hein, c'est ça, hein, qui est une forme quand même extrêmement particulière. Dans la question, c'est comment on peut repenser, y compris d'ailleurs dans les rapports concurrence-coopération. C'est-à-dire que là, on ne pense le marché que sous la forme de la concurrence. Hein, sur la concurrence, voilà.